Ça me permet de parler de la perméabilité didactique, surtout pas, enfin moi je ne suis pas pour qu'on propose des exercices comme ça sans filet à des enfants. Par contre, entre nous, ça vaut le coup, quoi, en fait. Hein. Alors, les difficultés prévisibles des décimaux, ce qui permet de parler de la notion d'obstacle. Hein. Alors, la notion d'obstacle, les didacticiens se sont emparés, enfin, ils ont eu raison, de s'emparer de la notion d'obstacle, mais c'est Bachelard hein, qui définit la notion d'obstacle, je reprends sa définition. Hein. C'est-à-dire qu'on apprend contre une connaissance ancienne. Hein. Et cette connaissance ancienne vient semer le bazar dans l'apprentissage des connaissances nouvelles. Parce que c'est normal, tout être humain investit ce qu'il sait déjà dans ce à quoi il est nouvellement confronté. Donc, à la suite de ça, eh bien, on analyse les phénomènes, la pollution que ça produit, hein, et qu'on définit en termes d'obstacles. Donc l'obstacle, c'est pas la difficulté. Enfin, si vous utilisez le terme d'obstacle et si les gens pensent que c'est synonyme d'une difficulté, c'est une méconnaissance de la notion d'obstacle. Donc soit je l'utilise et je donne des définitions à peu près correctes, soit je vais parler des enfants en difficulté. Hein. Je vais pas confondre les deux. Hein. Donc un obstacle se manifeste donc par des erreurs, mais elles ne sont pas dues au hasard. Elles sont reproductibles et persistantes. Bon, je crois que là-dessus, vous en connaissez autant que moi. Hein. Alors, les décimaux permettent de travailler trois types d'obstacles. C'est pour ça que je trouve. Enfin, c'est pour ça que on choisit les décimaux. Hein. Des obstacles d'origine ontogénétique, alors liés à la personne qui apprend au niveau des décimaux, c'est plus difficile. On peut donner un obstacle plus simple pour les enfants en école maternelle. Vous savez, les travaux de Gréco-Piaget, on a cinq jetons rouges, on met en dessous cinq jetons bleus, on écarte les jetons bleus, et les enfants disent qu'il y a plus de jetons bleus que de rouges. C'est très, très connu, puisque c'est le spatial qui l'emporte sur le quantitatif. C'est un obstacle d'origine ontogénétique, c'est lié au développement du sujet. Bon, au niveau des décimaux, il n'y a rien de bien précis. On va plutôt regarder du côté des obstacles d'origine épistémologique ou didactique. Hein. D'origine épistémologique, bien, l'ordre dans les décimaux, hein, puisque les enfants sont très branchés sur l'ordre dans les entiers naturels, et c'est normal qu'il prolonge et qu'on ait en masse les décimaux comme un couple d'entiers, vécu comme un couple d'entiers naturels. Il n'y a rien de plus humain que ça. Et le travail va être de se défaire de ça de façon soft. Hein. Et des obstacles d'origine didactique. Alors ça recouvre les obstacles d'origine épistémologique, hein, parce que si l'enseignant, lui, il en rajoute une couche en disant 1,2 c'est 1,20 et tu le compares avec 1,15, il ajoute un obstacle d'origine épistémologique, un obstacle de nature didactique. Alors, je vais faire voir un travail sur lequel on avait planché avec une collègue et amie. Voilà, un travail. On est en CM1, c'est une classe dans la région de Cahors, et c'est un enseignant qui fait un bon boulot et qui veut que les enfants découvrent, on reprend le truc du début, hein, il veut que les enfants découvrent l'addition des nombres décimaux. À virgule. Et il se sert pour ça d'une situation, elle est vraie, c'est il y a une salle des fêtes et dans laquelle il va falloir acheter des rideaux. Il y a le premier mesure 9,65 m et le deuxième 7,8 m. C'est ça. Et il dit aux enfants, ben, quelle est la longueur du tissu qu'on doit acheter? Donc il met tout le monde en place là-dessus. Et on avait fait un montage et on regarde les travaux. Alors là aussi, hein, c'est un travail qui au niveau d'une formation, c'est vite fait de donner une feuille comme ça, puis de dire aux gens, ben, examinez un petit peu la nature des travaux. Alors vous voyez, on voit des enfants, il y a Aurélien, ça nous a toujours fait rire, il propose trois solutions. C'est un futur commercial, il dit. Ouais, me cassez pas la tête, il y a des choix possibles. Bon, je fais ça ou ça ou ça. Hein. Bon, il dit, ouais, faites votre choix. Hein. Alors, plus sérieusement, on va pouvoir, si on a le temps avec des gens, leur demander de classer un peu les exercices, les résultats. Hein. Alors, vous voyez, par exemple, le rôle de la virgule est intéressant à examiner. Alors voilà, Véronique, là, c'est un couple d'entiers naturels. Hein, c'est clair et net. Il y a deux additions et on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. Il y a plusieurs, Marc-Antoine, même chose. Si on regarde ce qui tourne autour de 1,043, c'est le calage des nombres à droite, et on place la virgule au petit bonheur la chance. Hein. Vous voyez, on commence à caler les nombres à droite, c'est normal, on a pris les additions comme ça. Hein. Ici, la virgule joue un rôle, c'est dans celui-là, la virgule joue le rôle de zéro, du zéro. Oui, il y a un endroit, alors je ne sais pas si c'est Muriel. Là, chez Mathieu, la virgule joue le rôle d'un zéro. C'est étonnant, hein ? C'est pas inintéressant. Alors, pourquoi ? Bon, déjà, c'est intéressant de voir que dans une classe, quelqu'un a le courage de se lancer là-dedans. Là où on peut dire qu'il y a un déficit par rapport à ce qu'on a montré au début, c'est que les enfants, il va être forcé de reprendre la main, le prof. Parce qu'il n'y a aucune validation pragmatique possible. Il ne peut pas dire on va prendre le tissu, tout ça. Donc il a pris une situation proche de la vie de l'école, c'est dans un milieu rural, il a pris une situation proche du milieu de l'école, mais en même temps il se prive d'une validation pragmatique parce que ça n'est pas possible. Alors, il ne faut jamais tout jeter. Il va y avoir quand même certaines... le tissu, il ne peut pas faire 1043 mètres de long. Les enfants sont capables de comprendre ça. Donc il va y avoir certaines solutions qui vont être réfutables par une maïeutique traditionnelle dans la classe. On va discuter, on va dire « Ah, attends, ça ne peut pas faire un mètre, puisqu'il y a 7 mètres et 9 mètres, ça ne peut pas faire un mètre. Ah, ça ne peut pas faire... » On imagine bien ce type de dialogue. Mais enfin, il y en a d'autres pour lesquels ça va être plus difficile. Hein. Faire le 16 mètres 145 par rapport à la solution juste, je suis coincé là. Je ne peux que sortir l'arme lourde de la démonstration mathématique. Hein. Je ne vais pas pouvoir, par un discours proche du matériel, dire ben, « non, je ne peux pas, il y a des solutions, quelle est la meilleure de... » Alors, ah oui, j'ajoute que Émilie venait d'une autre classe. c'est amusant à voir, parce que vous voyez, il y a un protocole qui est complètement surréaliste par rapport au reste de la classe. Hein. Donc elle venait d'arriver, donc elle est très branchée, un bon couple d'entiers naturels, mais ça donne un résultat juste. Donc, ouais, il faut être très modeste. Hein. Bon, donc, je ne peux pas facilement écarter la solution 16,145 par un discours. Hein. Voilà. Donc, c'est tout un... Alors, des erreurs persistantes, hein, vous en trouvez à chaque fois que vous êtes dans une classe. Hein. 4,2 par 2,3, ça fait 1,6. Hein, le couple d'entiers naturels, je l'ai dit, hein, tout ça. Ça vaut le coup de répertorier toutes ces erreurs. Le rôle du zéro, hein, bien sûr, qui n'a... Alors, j'ai oublié de dire au début, je vous renverrai à plusieurs articles. Il y en a un, d'ailleurs, de Christine Chambry et toute une équipe qui ont fait tout un travail très remarquable à un colloque de l'accord FEM en 2016. Donc, j'ai mis sur mon site. Donc, en allant sur mon site, vous tombez dessus. Hein. Enfin, je vous le réexpliquerai après, ça, hein, quand... Vous verrez tout ça en détail. En particulier, elle travaille de façon remarquable sur le rôle du zéro, le nouveau rôle du zéro dans les décimaux. Quoi. Alors, des exercices à éviter. Je vous jure que le premier sort d'un manuel, je ne l'ai pas inventé. Ranger dans l'ordre croissant les nombres suivants. Alors, pourquoi il ne convient pas cet exercice ? Ben, parce que si j'ai le modèle du couple des entiers naturels, je vais réussir à l'exercice. Hein. Donc on voit là un choix qui est malencontreux. Même si j'ai une conception fausse des nombres décimaux, j'ai réussi à cet exercice. Alors les autres, honnêtement, je les ai inventés, mais bon, on imagine que chez des débutants, ça risque de se produire. Hein. Calculer un, au prétexte. Alors si je l'ai inventé, ce n'est pas totalement par sadisme, c'est parce que chez les gens, il y a l'idée, on va d'abord faire additionner des décimaux pour lesquels il n'y a pas de retenue. Un vieux classique, soustraction sans retenue, soustraction avec retenue. Et donc, je fais additionner sans retenue au passage à la virgule, hein, entendons-nous bien. Hein. Et donc, j'ai une fausse réussite. Et ça fait plaisir aux profs, ça fait plaisir à tout le monde, hein, les fausses réussites. Hein, et même chose. Alors ici, c'est pareil, hein, y a une retenue, mais elle ne va pas polluer l'autre côté de la virgule. En fait, hein. Et là aussi. Hein. Bon, et puis vous vous souvenez, les plus anciens parmi nous se souviennent de cette première évaluation où on demandait cette évaluation de sixième, on demandait de trouver un nombre entre 2,34 et 2,37. C'était une catastrophe, mais depuis, tout le monde bachote et tout le monde, et ça réussit bien. C'est-à-dire, le principe des évaluations, c'est de les faire avant. Bon, je suis un peu méchant, mais je veux dire, vous savez bien que maintenant, cet exercice-là est relativement bien réussi, parce que les évaluations... Alors, est-ce que les évaluations ont fait progresser? Peut-être, pas sûr que non. Ils ont fait comprendre qu'entre 2,34 et 2,37, il y avait 35 et 36. Alors, oui, non, je m'excuse. Je mélange deux choses. Trouver un nombre entre 2,34 et 2,37, les enfants réussissent. Et dans l'évaluation, c'était de trouver un nombre entre 2,33 et 2,34. Enfin, bien sûr, deux consécutifs. Les décimaux consécutifs, ça n'existe pas. Hein. Donc, entre 2,33 et 2,34, eh bien, c'était une catastrophe nationale. Mais maintenant, les enfants savent. Ils intercalent, ça a été appris. Mais on peut apprendre en disant 2,33, c'est 2,330, 2,34, c'est 2,340, donc 2,331, 32, 33, 34. Il y a toujours un moyen de passer, de court-circuiter par les entiers naturels. Alors, un autre point, le détour par l'histoire. Moi, j'encourage les gens avec qui on travaille. On va aller voir ce brave Stévin. Le pauvre, il ressemble à Villani, là, mais c'est Stévin, c'était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de bien, hein, parce qu'il n'a pas fait qu'inventer les décimaux, il a inventé le char à voile aussi. Donc, sur les côtes aquitaines, on remercie Stévin chaque jour. Bon, plus sérieusement, Stévin, alors ce qui est intéressant, je l'ai mis aussi sur le site avec Marie Spelletier, on a fait un travail. C'était du luxe, on pouvait faire ça il y a 10 ans, je ne suis pas sûr qu'en formation on puisse le faire maintenant. C'est l'étude d'un texte historique, la dîme. Et on avait posé des questions. On faisait ça avec les PLC. On posait des questions aux PLC. Voilà un texte. Eh bien, on va le lire. Le texte de Stévin, c'est 8 pages. Les 4 premières, c'est il explique. Alors, si vous le connaissez, excusez-moi, si vous ne le connaissez pas, Stévin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux commerçants de Bruges, c'est-à-dire une cité très commerciale et très, très riche. Donc des commerçants qui avaient recours à l'imprimerie et qui savaient déjà bien manier les fractions décimales. Hein. Mais pour des raisons intéressantes qui sont à la fois de calcul et d'imprimerie. Il n'y avait pas Word à l'époque. Donc les imprimeurs, quand ils voyaient arriver une fraction, ils ne sautaient pas de joie. Quoi. Enfin, c'était pas... Hein, fallait aller dans la casse, chercher, c'était compliqué. Et Stévin propose donc une autre notation qui n'est pas tout à fait celle de la virgule. Et on voit d'ailleurs que les imprimeurs s'émancipaient un peu de l'exposant parce que ça ne les intéressait pas non plus. Cet exposant, le rang, c'était pas un exposant, c'était un rang. Hein. Et donc, il appelait ça le 3 à la prime, le 7 à la seconde, le 5 à la tierce. Donc, il se sert de ça pour dire, braves gens, au lieu de vous embêter à additionner des fractions, regardez avec cette notation-là, c'est comme l'addition dans les entiers naturels, c'est comme l'addition habituelle, c'est comme la soustraction, c'est comme la multiplication, il va jusqu'à la division. Ça a un succès fou, on est en 1582, ça a un succès fou chez les commerçants, en 1585, un succès fou chez les commerçants. Et dans la deuxième partie, il dit, mais alors en plus, si vos unités allaient de 10 en 10, ça serait fabuleux, parce que en même temps que vous faites des additions, vous gérez le système d'unités. Donc, il s'adresse aux gaviers, les fabricants de tonneaux, il s'adresse à ceux qui font les boisseaux, tout ça. Et là, il se fait ramasser, parce que les gens ne voulaient pas qu'on mette trop leur nez dans leurs unités. Parce que le boisseau d'une province à l'autre n'était pas tout à fait la même, ce qui permettait des petits détours par rapport aux impôts, c'était une chasse gardée. Et donc, c'est le système métrique, Stévin l'invente, mais il est déclaré irrecevable par le système commercial de l'époque. Et je trouve ça intéressant en formation de montrer que, d'une part, il y a les décimaux qui sont introduits comme une lettre à la boîte, ça marche, tout le monde est content parce que ça facilite les calculs. Et le système métrique est un système vraiment révolutionnaire, ne peut pas fonctionner pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les mathématiques. Et alors ça vaut le coup de faire un petit détour en disant c'est la révolution, il faut vraiment une dictature, parce que bon, en 1789, on n'a pas fait de détails. Il faut une révolution pour dire le système métrique, ça sera ça. On dit que c'est les encyclopédies, c'était aussi pour regarder, pour contrôler les impôts d'un peu plus près. Ça veut dire tout le monde va avoir les mêmes mesures et on va pouvoir y voir plus clair, quoi. Et donc, il faut la révolution pour mettre le pas. Et vous remarquerez qu'au niveau de l'histoire, le système métrique est remis en cause par deux personnages qui sont Napoléon Ier et Napoléon III. Le retour au populisme, hein, c'est-à-dire on fait plaisir au peuple. Au mauvais sens du terme, hein, j'espère que vous avez compris. Donc c'est Napoléon Ier, Napoléon III qui remettent en cause le système métrique. Donc c'est quelque chose qui reste fragile sur plus d'un siècle, hein, le système métrique. Voilà. Bon, ça me paraît pas... Alors, je sais que les formations sont tellement réduites qu'on n'a pas toujours le temps de faire ça. Bon, mais quand même. Dernier point, à propos des notations. Les notations, il ne faut pas être trop maniaque. Enfin, il faut... Ça aussi, hein, on est entre adultes, hein, on regarde les notations. Moi, je vous assure, ça, c'est un prospectus que j'ai reçu il y a quelques heures, il n'y a pas très longtemps. Hein. Visiter Notre-Dame de la Garde, on a un petit prospectus qui vous informe sur la bonne mère. Eh bien, le poids de la statue, il fait 9,796 kilos. Ceux qui connaissent la bonne mère, enfin, il fait 9 tonnes. Hein. Enfin, la virgule, c'est un point. Hein. Donc, on s'émancipe, enfin. Alors, on retrouve, là, j'ai pris un bouquin au Mexique, les enfants au Mexique, je ne sais pas si vous le voyez, c'est tout petit, hein, c'est 5,25, hein, la virgule est un point, ce qu'on retrouve sur les calculettes, hein, sur les calculatrices. Hein. Alors j'ajoute à ça, c'est quelque chose auquel il faut prêter attention, c'est l'écriture décimale des durées. C'est quand même un problème, on en parlait hier, hein. Sylvie, tu as un bon exemple. Moi j'ai celui-là, c'est chez mon garagiste, chez un garagiste, ils mettent les heures en décimales. Parce que si je veux multiplier par le prix de la main-d'œuvre, c'est bien plus simple. Donc un embrayage c'est 3h30, 3h05, et si le coût c'est 60 euros horaire, eh bien, j'ai mon total qui est tout près. Si j'avais mis 3h30, imaginez que pour le garagiste, c'est un déficit, hein, il se trompe. Hein. Voilà. Alors, dernier point avant de faire notre pause cognitive, et ce n'est pas forcément le plus simple, il y a deux conceptions des fractions. Donc, si on s'engage dans les savoirs de référence, on va accepter les programmes tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Il y a deux conceptions des fractions. Alors, je crois en avoir parlé la dernière fois, mais je me souviens peu parce que c'était en bout de cours. Je suis pas sûr. Excusez-moi si je me répète. De toute façon, c'est important. Il y a deux conceptions des fractions. C'est-à-dire, j'ai une baguette unité. Je l'appelle U pour être original. Je la partage et je décrète que ce petit segment bleu là, c'est trois fois. Le quart, hein, puisque j'ai plié en 4 et je l'ai pris 3 fois, donc c'est le partage de l'unité. C'est cette conception-là des fractions qui va nous permettre, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer, pardon, à l'école élémentaire. 3 quarts, ça renvoie au partage du segment unité qui est fractionné en 4 parts égales par pliage et on en prend 3. On parle de fractionnement d'unité. Bien. Qu'est-ce qui m'autorise à dire que 3 quarts, c'est 3 divisé par 4 ? Rien. Rien, rien à ce moment-là. Hein. Or, je vais arriver en sixième et je vais prendre l'unité et je vais dire, si je veux faire le lien avec ce que va être la division, si je prends 3 quarts, il faut que je prenne le 3. Donc, je prends 3 unités. Et je vais essayer de le diviser par 4 avec du pliage. Donc je divise par 2, le petit point rouge qui apparaît, et je divise encore 2 par les pliages. Et le segment bleu, ben, il coïncide avec celui d'avant. Mais vous voyez que le cheminement n'est pas du tout le même. Hein. Donc Là, cette fois-ci, 3 quarts, c'est 3 fois l'unité divisée par 4. Ce n'est pas 3 fois 1 quart. Le 1 quart, il n'apparaît pas dans cette conception de la fraction. C'est la conception, commensuration, c'est-à-dire c'est la conception division, fraction quotient. C'est celle-là dont les profs en sixième vont introduire. Ben, je peux vous assurer que le pontage entre la fraction partage et la fraction quotient se fait au détour d'une page de manuel. Hein. Et les gens qui décident de travailler ça de près ont toutes les peines du monde. Alors, on regardera plus tard dans la matinée, on regardera comment on peut essayer de concilier tout ça. Encore une fois, ce qu'il faut dire aux gens, c'est on en reste à la fraction partage à l'école élémentaire. Et on ne veut pas que les enfants soient des grands experts des fractions. On va passer à la fraction partage, la fraction décimale et rapidement aux décimaux. On ne va pas s'amuser à faire de la grande complexité sur les fractions. Et si on est avec des collègues dans une liaison CM2 6e, si on est en fin de cycle 3, il faut expliquer aux collègues de 6e que eux, ce qu'ils imaginent que 3 quarts c'est 0,75, hein, eh bien non, pour les enfants, ça va créer un obstacle, enfin un dysfonctionnement entre la perception qu'ils avaient des fractions et cette nouvelle perception. Donc c'est vraiment un lieu de tous les dangers. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous faire voir, on va faire la pause cognitive, hein, oui, alors parce que tout ça c'est difficile à digérer, donc on va faire la pause cognitive. On regardera après comment les programmes de 6e donnent une explication, comment c'est un peu emberlificoté, et il ne s'agit pas de dire que les commentaires sont mauvais, il s'agit de dire que le passage est difficile en fait, hein, entre cette fraction partage et cette fraction quotient. Donc ça va être un gros morceau dans le cycle 3. Donc on a affaire à un sujet qui est assez délicat. Alors, le document d'accompagnement de 6e, ce que vous disiez là, le document d'accompagnement de 6e, il dit comment passer au fractionnement, passer de la fraction partage à la fraction quotient. Faut le lire et il faut prendre un cachet d'aspirine. Enfin, je veux dire, c'est pas évident à comprendre, hein. D'autant plus que ça ne marche pas sur 2/3. Ça marche sur parce qu'ils ont pris des cinquièmes qu'on peut rabattre sur des dixièmes. C'est très bien. Ça marche avec les dixièmes. Donc, 13 cinquièmes, c'est 13 cinquièmes de l'unité. Donc, un cinquième de l'unité, on partage en 5. Une unité est égale à 10 dixièmes. Donc, un cinquième d'une unité, c'est 2 dixièmes. Bon, faut déjà suivre. Et on montre ainsi que 13 dixièmes est égal à 13 fois 2 dixièmes de l'unité, soit 26 dixièmes ou 2,6. Un peu vite, hein. Ce raisonnement permet de valider que 13 sur 5 sera aussi utilisé pour noter le quotient de 13 par 5. On parlera cette fois de la conception quotient de 13 par 5. Eh bien, bonjour en formation, hein, pour convaincre les jeunes profs de ça. Parce que d'une part parce que c'est pas simple, puis d'autre part, s'il y a un mauvais plaisant qui vous dit « Mais alors, avec 2/3, je fais quoi ?» Ben, je fais rien avec 2/3 parce que mes 2/3 et mes dixièmes, ça marche pas. Donc, on est limite, hein. C'est comme ça. Alors, il existe des ouvrages, hein, dans lesquels on traite ça à peu près proprement. Donc, ça existe. Hein, ne faisons pas les Cassandres. Hein, ça existe. Ce ne sont pas les ouvrages les plus défendus. Donc, je passe. Hein, ce ne sont pas les ouvrages les plus défendus dans le commerce. Enfin, les plus... Je sais l'auteur, c'est Lalina Coulange, c'est une collègue de Bordeaux, Lalina Coulange, et je ne me souviens plus du nom de leur collection, donc je suis désolé. Pour faire le lien, donc c'était une discussion qu'on avait tout de suite là, hein, pour faire le lien, voilà moi ce que je propose, ce que l'on propose, hein, c'est-à-dire on va faire le lien entre la fraction partage et la fraction quotient uniquement dans le cas des quantièmes de l'unité, c'est-à-dire dans le cas où le numérateur est égal à 1. C'est-à-dire que on a l'unité, je reprends le dessin de tout à l'heure, hein, on l'obtient en pliant deux fois la bande unité, donc en divisant par 4. Hein. Donc un quart de l'unité, c'est 1 divisé par 4. Et à ce moment-là, on est à un moment où les enfants savent, on leur a appris la division de 1 par 4. Et donc, on va tomber à 0,25. Le but, ce n'est pas d'en faire des experts des fractions, c'est que les enfants arrivent en sixième en sachant que un demi c'est 0,5, que un quart c'est 0,25. Hein. Que un tiers c'est 0,33, on ne peut pas y arriver. Hein. On ne peut pas. Enfin, on peut, mais la division, elle a un reste non nul. Hein. Donc c'est un truc. Et alors, si on est à l'aise, c'est l'occasion de montrer que c'est infini, que ce n'est pas un décimal. Mais avec qui on peut faire ça à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr qu'avec 6 heures de formation tous les 6 ans, on y parvienne. Donc faut revoir ça d'un peu plus près. Donc voilà, c'est une suggestion. Alors je vous renvoie à l'article de la CORFEM, là, qui est sur le site. Dans cet article, il y a 2 pages qui expliquent ça bien en détail, de façon à ce que vous l'appropriez autrement que par une simple diapo, hein, que vous ayez le temps de regarder ça.